Après ce qu'on vient de vivre, ce temps de louange et cette sainte scène, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. On a été édifiés, nous avons loué Dieu, nous avons reconnu, nous sommes souvenus de son sacrifice à la croix. Mais j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ce matin, ensemble. Et pour ça, j'ai un collègue qui est prêt à appuyer sur la touche. Comment c'est ton prénom ? Gilles. Gilles va m'aider. Et vous aidez-vous à suivre ce que je vais dire. Et j'aimerais ce matin que nous puissions ouvrir nos Bibles à la première lettre à Timothée. Première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 6. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ces lettres pastorales, les deux lettres à Timothée et celle à Tite, qui sont en quelque sorte, Tite et Timothée, des pasteurs de leur temps, donc adressées aux pasteurs. Mais néanmoins, elles sont pleines de conseils de sagesse pour nous, pour savoir comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Et le mot d'ordre de ces trois épîtres est la fidélité. Plusieurs fois, Paul encourage à la fidélité. Garde ce que tu as, continue, sois juste, sois vrai, dénonce les faux messages, mais toi, fais attention à ta conduite, reste fidèle. Et tout cela en prenant pour modèle Jésus. Jésus est ce qu'il a accompli en disant « Si Dieu est fidèle, alors toi aussi, sois fidèle jusqu'au bout. » Et on peut le voir tout le long des chapitres, donc de la première épître à Timothée. Chapitre 1, « Combat le bon combat », verset 18. Chapitre 2, « Prie pour les autorités, sois juste avec les femmes dans l'Église ». Chapitre 3, « Nomme des responsables consacrés ». Chapitre 4, « Prêche la bonne doctrine, défends-la ». Chapitre 5, « Prends soin des membres et en particulier des veuves ». Et puis, on arrive au chapitre 6 avec un message aux esclaves qui peut être transposé aussi à nous qui sommes employés dans une entreprise. « Ne méprise pas ton maître ou ton chef, même s'il est croyant ». Et puis, un passage sur « Fais attention aux faux enseignants et aux fausses doctrines ». Et puis, à partir du verset 6 de ce même chapitre 6, un important passage concernant la piété. Paul dit « Ce qui est le plus important pour toi, c'est que tu restes pur, garde-toi pur et exerce-toi à la piété comme si tu faisais de la gymnastique ». Et la fameuse phrase « Combat le bon combat, rappelle-toi pourquoi tu es là, vis dans la perspective de l'éternité ». Et les deux sujets qui nous concernent ce matin, dans le passage d'aujourd'hui, à partir du verset 17, « Fais attention à ton rapport à l'argent et enseigne les riches. Garde le commandement que tu as reçu, garde le bon dépôt. » Et je remercie le Seigneur parce que ce qu'on a vécu ce matin depuis le début du culte est exactement dans la lignée de l'attention qu'on devrait porter ce matin, c'est-à-dire la gestion de nos priorités. Lisons ensemble 1 Timothée, chapitre 6, les versets 17 à 21. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Si Timothée recevait ses instructions positivement de la part de Paul, c'était presque normal, parce que Paul était en quelque sorte son mentor, son conseiller, comme un père pour lui. Donc quand on reçoit une lettre pareille de la part de son mentor, de son conseiller, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on estime, forcément, on ne peut que suivre ce qu'il nous recommande de faire. Ça pourrait être comme un militaire, par exemple, qui recevrait un ordre de la part de son quartier général ou de ses supérieurs. Il ne viendrait même pas à l'idée d'un militaire de poser la question, lorsqu'il reçoit un ordre, pourquoi est-ce que je dois le faire ? Un militaire obéit à l'ordre qui lui est donné, quel qu'il soit. Et j'ai discuté une fois avec un ami africain qui me disait qu'en Afrique, on ne remet jamais en question un ordre qui est adressé à un enfant, qui viendrait d'une personne de sa famille, que ce soit un frère, une sœur, ou un père, une mère, même un oncle, une tante. Et jamais, au grand jamais, on ne remet en question un ordre qui viendrait d'un grand-père ou d'une grand-mère. Lorsqu'un grand-père te donne un ordre, ne t'avise même pas de répondre, ni de lever les yeux au ciel. Jamais, jamais, jamais. Et ce frère avec lequel je discutais me disait que le problème des enfants africains qui, et ça doit être le cas aussi dans d'autres pays, dans d'autres cultures, qui étaient élevés dans des pays occidentaux, dans des pays riches, c'est que les enfants, lorsqu'ils entendaient un ordre de la part de leurs parents, ils prononçaient un mot qu'on n'utilise jamais normalement dans la culture africaine ou autre, dans ce contexte précis. Lorsqu'on dit à un enfant « fais ceci, range ta chambre, va acheter un litre de lait, fais la vaisselle », il y a un mot qui leur vient à la bouche, un mot incompréhensible pour lui, le frère africain avec qui je discutais, pourtant un mot très simple. Ce mot, c'est « pourquoi ?» Pourquoi je dois le faire ? Va ranger ta chambre. Mais pourquoi ? Ne te couche pas trop tard. Mais pourquoi ? Et on ne te demande pas pourquoi tu dois le faire, fais-le. Et ce tout petit mot de deux syllabes seulement, le mot « pourquoi », il a fait des ravages dans l'histoire des hommes et dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire des hommes, ce petit mot a signé l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. Et ça a commencé au tout début avec Adam et Ève. Le serpent a amené une nouvelle dimension dans la relation avec Dieu qui s'appelle la remise en question. Vous savez, le fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden, il leur a donné toutes les choses dont ils avaient besoin pour vivre. Ils étaient heureux, comblés, même immortels, donc aucune inquiétude à avoir. Et pourtant, malgré cette relation proche avec Dieu, extrêmement proche, une plénitude incroyable, le serpent est venu, il a semé le doute, et il leur a fait dire, mais au fait, c'est vrai ça, pourquoi est-ce que c'est défendu de manger du fruit de l'arbre au milieu du jardin ? Dieu avait dit, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève qui disent « Oui, mais pourquoi ?» Le serpent a semé le doute dans l'esprit d'Adam et Ève, et ils ont mangé le fruit défendu, ce qui a provoqué la chute, la déchéance de l'homme. Et ça nous conduit à une réflexion toute simple, mais totalement destructrice. Pourquoi est-ce que Dieu existerait ? C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. De tout temps, on a jamais remis en question le fait que Dieu existe. Et puis d'un coup, c'est vrai ça, pourquoi Dieu existerait ? Pourquoi je ne pourrais pas voir le monde sans Dieu, mais uniquement avec des hommes qui se suffisent à eux-mêmes ? Et ce principe-là, le fait de remettre en question l'existence de Dieu, c'est une philosophie qui s'appelle le matérialisme. On pense que ceux qui sont matérialistes, généralement, sont les riches. Oui, mais tu es matérialiste, tu penses qu'à l'argent. En réalité, le matérialisme, c'est un courant de pensée philosophique qui soutient que la seule chose qui existe, c'est la matière. Tout est matière, tout s'explique par la matière, tout est physique, tout peut s'expliquer parce que c'est une manifestation physique de la matière. Et même l'esprit, la pensée, est une propriété de la matière. Donc le matérialisme rejette toute idée que l'être humain peut avoir une âme ou qu'il peut y avoir un au-delà, et donc va jusqu'à nier l'existence de Dieu. Si Dieu ne peut pas s'expliquer, si Dieu est un mystère, alors il n'existe tout simplement pas. C'est aussi simple que ça. Et La richesse alimente le matérialisme. Pourquoi ? Parce qu'avec l'argent, finalement, on peut faire beaucoup de choses. On peut voyager, faire des études, on peut acquérir des capacités en se formant, on peut influencer le cours des choses. Avec l'argent, on choisit son destin. Mais revenons à notre texte. Paul dit à Timothée, aux riches de ce monde, au tout début de notre texte, aux riches de ce monde, ordonne, dis-leur, recommande-leur. Mais alors, être riche, être matérialiste, c'est mal ? C'est la première question à se poser. Voilà Paul qui part des riches pour la deuxième fois dans ce chapitre 6. Il y a quelque chose avec les riches. Il y a un problème avec les riches. Sauf que Paul, dans ce chapitre, dénonce deux choses différentes. Au début du chapitre, si vous regardez à partir du verset 3, il parle des faux docteurs. Alors que dans le texte d'aujourd'hui, il parle vraiment des personnes qui ont de l'argent. Les faux docteurs, à partir du verset 3, ce sont les personnes dans l'église d'Éphèse qui enseignaient des choses qui ne sont pas en accord avec l'évangile. Ils ne prêchaient pas la vérité. Et non seulement ce qu'ils disaient était faux, mais en plus, ils gagnaient de l'argent avec ça. C'était devenu leur seul objectif de gagner de l'argent en parlant. À l'époque, il y avait certains érudits qui se faisaient payer très cher pour pouvoir parler, dire des choses, comme aujourd'hui on paierait pour voir un one-man show ou pour voir un humoriste. Et c'est pour ça que Paul parle précisément de la relation entre la piété et les richesses, entre le fait de vivre pour Christ et de vivre pour l'argent. La piété, parler de Dieu, vivre de Dieu, c'est pas un moyen de s'enrichir, dit Paul, mais c'est un gain lorsqu'on est heureux avec ce que l'on a, lorsqu'on pratique le contentement. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 10 que l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Vivre pour l'argent, avoir pour seul objectif dans la vie, dans tous ses actes, dans tous ses projets, de gagner toujours plus d'argent, voilà le problème. Alors oui, j'en entends qui disent, je vous entends, oh là là, moi je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné du tout, je suis au chômage, j'ai un petit salaire, j'ai une petite retraite, je ne suis pas riche. C'est pas moi les riches, je ne suis pas concerné. Mais on peut se poser la question, c'est vrai, après tout, c'est qui les riches ? Qui sont les riches ? Qui est concerné par ce passage ? C'est quoi un riche pour vous ? Il y en a qui vont dire un riche, c'est celui qui paye l'ISF, l'impôt sur la fortune. Un riche, c'est celui qui gagne plus de 10 000 euros par mois, par exemple. Un riche, c'est un joueur de foot, c'est un milliardaire. C'est ça, un riche, non ? Alors, j'entends des étudiants qui me disent, non, un riche, c'est celui qui a un métier. Celui qui gagne régulièrement de l'argent, tous les mois, celui qui a un CDI. Et le sans-abri ? Qui c'est un riche pour lui ? Un sans-abri qui dort sous les ponts tous les soirs, lui il dira non, un riche c'est celui qui a un lit douillet pour dormir la nuit. Un riche c'est celui qui peut manger à sa faim. Un riche c'est celui qui se lève le matin et qui prend une douche, qui a une voiture pour se déplacer, c'est ça un riche. Et la personne tétraplégique qui est cloué, condamné à vivre dans son lit, jusqu'à la fin de ses jours ou en fauteuil roulant. C'est quoi un riche pour elle ? Un riche pour lui, c'est quelqu'un qui peut marcher, quelqu'un qui peut attraper un livre et le lire, quelqu'un qui peut se mettre debout et décider d'aller faire une balade comme ça parce qu'il a envie. Et la jeune prostituée de 12 ans sur les trottoirs de Bangkok ? C'est quoi un riche pour elle ? Pour elle, un riche, c'est quelqu'un qui est libre, qui n'est pas enfermé, obligé de vendre son corps pour pouvoir manger. Oui, nous sommes riches. sommes tous riches. Parce que nous avons pu dormir dans un lit, parce que nous avons mangé un petit déjeuner, parce que nous sommes déplacés en voiture pour venir jusqu'ici. Si pour certains ça n'a pas été le cas, ben, venez me voir ou venez voir un des pasteurs, on trouvera une solution. Mais nous sommes tous riches. Alors vous allez me dire, pourtant, ne pas vivre dans le besoin, gagner de l'argent, c'est une grâce de Dieu. Dieu fait grâce aussi en nous donnant des richesses. Dieu peut bénir en faisant fructifier nos affaires. Dieu peut bénir en permettant qu'on contribue à l'avancement de son règne ici sur cette terre. Il n'y a donc rien de mal à gagner de l'argent. Mais le problème, c'est quand l'argent prend toute la place. Le problème, c'est quand on vit pour l'argent au lieu de vivre pour Dieu. Le problème, c'est quand l'argent remplace Dieu et qu'il devient alors lui-même une idole qu'on adore. Et si on vivait sans argent, est-ce que ce serait la solution? Pas forcément. Lorsqu'on n'en a pas, on fait aussi des mauvais choix. On fait aussi des choix qui nous mènent à la destruction, comme la tricherie, le vol, le mensonge. Et quand on en a, on fait aussi toutes ces mauvaises choses. Et c'est ce que Paul veut dire à Timothée. Notre relation à l'argent influence notre caractère, ainsi que notre façon de gérer notre vie. Notre relation à l'argent influence notre caractère, ainsi que notre façon de gérer notre vie. Notre relation à l'argent influence notre vie parce que nous vivons dans un monde déchu, un monde pécheur. Nous sommes, nous aussi, reconnaissons-le, des pécheurs. Le premier danger pour les riches de ce monde, les riches du présent siècle dont parle Paul, c'est-à-dire nous, au verset 17, c'est d'être orgueilleux. L'argent nous rend orgueilleux. C'est facile, lorsqu'on gagne de l'argent, de regarder les autres de haut, se considérer comme supérieur. C'est très difficile d'être riche et humble. À l'époque de Paul, c'était monnaie courante qu'un riche ait beaucoup de serviteurs, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'esclaves. Et plus il en avait, plus il était riche. Donc il ne pouvait que se considérer comme supérieur. Et il avait le droit de se considérer comme supérieur par rapport à ses esclaves et ses ouvriers. Et c'est, évidemment, c'est lui qui les nourrissait, c'est lui qui les logeait, il dépendait de lui, donc il était forcément supérieur. Et il avait d'ailleurs quasiment le droit de vie et de mort sur eux. Ça, c'était l'époque de Paul, mais aujourd'hui aussi, on se sent supérieur lorsqu'on a de l'argent. Comment est-ce qu'on réagirait si un sans-abri entrait dans cette salle? Comment est-ce qu'on l'accueillerait? Est-ce qu'on le mettrait devant, à une place d'honneur? Ou est-ce qu'on le mettrait tout derrière pour qu'il ne dérange personne? Est-ce qu'on on se sentirait pas supérieur à lui? C'est l'épître de Jacques qui nous en parle. Jacques chapitre 2. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or, des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte des habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi à cette place d'honneur !» et que vous dites au pauvre « Tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi là à mes pieds !» Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas les juges au mauvais raisonnement? L'argent ne fait pas que nous rendre orgueilleux, il nous rend aussi égocentriques. C'est nous qui sommes les plus importants. C'est moi, moi et moi d'abord. C'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon bonheur, ma sécurité, mon plaisir, mes façons de faire, mon opinion, parce que c'est mon argent. Et le deuxième danger que nous signale l'apôtre Paul, c'est que, concernant les richesses, c'est la tentation que l'on a de s'appuyer dessus, de compter dessus pour assurer notre avenir. de mettre notre espérance dans l'argent. Relisez les proverbes. Vous compterez le nombre de proverbes qui parlent de l'argent. Il doit y en avoir une quarantaine. Et tous, ils disent que l'argent est une illusion de sécurité. Et les évangiles aussi nous en parlent. Nombreuses paraboles, enseignements de Jésus concernant les riches. Le jeune homme riche, au hasard, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et qui repart triste parce que Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens, les donner aux pauvres. Effectivement, les richesses sont un handicap pour celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en entrant dans le royaume de Dieu, il va devoir tout abandonner. Il sera obligé de tout laisser. Et c'est ce que Paul affirmait déjà au verset 7 du chapitre 6. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Nous n'amènerons rien de ce que nous avons aujourd'hui au ciel. Ma voiture, elle restera là. Ma maison aussi. Et le problème du matérialisme, c'est qu'il nous fait croire que tout nous appartient ou que tout peut s'obtenir par l'argent. Et c'est un message faux. Tout appartient à Dieu. Rien ne m'appartient. Dieu est créateur de toutes choses. C'est lui qui donne et c'est lui qui enlève. Il accorde des bénédictions à qui il veut, quand il veut. Et moi, je ne suis que le gestionnaire des biens qu'il m'accorde. Et Jésus l'a dit, et vous connaissez ces versets qui mettent en garde les biens que nous accumulons sur terre. Relisez le chapitre entier de Matthieu 6. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon et l'argent. C'est Jésus qui le dit. Alors certains d'entre vous peuvent dire, bon, jusqu'ici ça va, c'est faisable. Ne pas s'attacher aux choses terrestres, faire attention à la manière dont on utilise notre argent, ça je peux le faire et je le connais par cœur, on l'entend très souvent ici. Mais attention, l'enjeu que signale Paul ici est beaucoup plus important que vous croyez. C'est pas pour rien qu'il insiste autant. Il y a une clé ici et j'aimerais que vous puissiez la saisir. Il y a un problème fondamental et ce problème fondamental, c'est une question de vie ou de mort. Le problème de l'argent, même si c'est un problème réel, c'est pas ce problème-là qui est fondamental. Le vrai problème, c'est notre relation avec Dieu. C'est la place que Dieu a dans notre vie. Et on l'a déjà dit depuis le début du culte. Quelle place Dieu a dans votre vie ? Et je voudrais, pour illustrer cela, vous parler d'un personnage historique dont vous avez sûrement entendu parler, c'est Denis Diderot. Vous le connaissez, Denis Diderot, écrivain du XVIIIe siècle, philosophe, érudit, on lui reconnaît même un certain génie. L'encyclopédie, c'est lui. Pour les étudiants, ceux qui s'en souviennent, qui ont de la mémoire, Jacques le Fataliste, oui, ça vous rappelle quelque chose. Le drame bourgeois au théâtre. Rapidement, un homme né à Langres en 1713, l'aîné d'une famille de 6 enfants. Son père était coutelier, mais lui n'avait aucun intérêt pour la coutellerie. Et puisqu'ils étaient catholiques très pratiquants, ils le poussèrent à être prêtre. Ils l'ont envoyé dans un collège jésuite et il prend même le titre d'abbé à l'âge de 13 ans. Puis il part étudier à Paris la théologie, mais aussi la philosophie à la Sorbonne. Et puis il rencontrera un certain Jean-Jacques Rousseau qui va beaucoup l'influencer. Pourquoi je vous parle de Diderot ? Parce qu'il a publié un livre qui s'intitule « Lettre sur les aveugles à l'attention de ceux qui voient ». Et ce livre est une critique de la foi chrétienne. Diderot explique dans son livre que on a l'habitude de dire de la nature qu'elle vient de Dieu, qu'elle a été créée par Dieu, qu'elle est magnifique et parfaite uniquement parce qu'on la voit. Mais il estime qu'un aveugle de naissance, qui ne l'a jamais vue, ne peut croire en Dieu, parce qu'on est obligé de lui expliquer chaque chose, comment chaque chose fonctionne. Donc, un aveugle ne peut se satisfaire de la notion d'un Dieu qui aurait tout créé, parce qu'il ne peut pas voir ce qui a été créé. Très rapidement, schématiquement, voilà un petit peu sa théorie. Donc, Diderot dit, ça ne sert à rien de croire en Dieu, parce que tout s'explique. On explique toute chose. Et Diderot, en fait, montre dans cet ouvrage que, sachant à la base que Dieu existe, lui a abandonné la foi pour se tourner vers la philosophie matérialiste. Diderot est passé du théisme au déisme, puis au matérialisme. Alors, qu'est-ce que le théisme, le déisme et le matérialisme? Très rapidement, le théisme croit qu'une divinité existe, au moins une, que la religion est nécessaire comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, et que les écrits sacrés sont une révélation de Dieu. Le déisme croit qu'il y a un Dieu, mais n'accepte pas les textes sacrés et tout ce qui pourrait être surnaturel, parce qu'il n'y a pas de révélation, Dieu n'intervient pas dans le monde, et chacun croit ce qu'il veut, fait sa propre expérience individuelle de qui est Dieu. Et le matérialisme refuse tout mystère et toute forme de Dieu parce qu'il croit que tout est matière et que tout dans la nature s'explique. Le matérialisme nous fait oublier Dieu. Le matérialisme nous fait devenir individualistes. Nous n'avons plus besoin des autres parce que nous avons tout. Nous n'avons donc pas besoin de Dieu. Et il est là, le problème principal est là. À cause de l'argent, parce que nous pourvoyons en toute chose pour nous-mêmes, à nos besoins, à cause du matérialisme, nous avons rejeté Dieu. Nous l'avons poussé en dehors de nos vies. Donc nous n'avons plus besoin de lui. Alors, quelle est la solution? Maintenant qu'on a posé le problème, quelle est la solution? La solution est au verset 18. 1 Timothée 6, verset 18. « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager. » La solution au matérialisme, c'est donner. Donner est le seul antidote au matérialisme. Pourquoi ? Parce que lorsque je donne, ce que je donne ne m'appartient plus. Parce que quand je donne, je dis à Dieu que ce que j'ai, ça ne m'appartient pas. C'est à toi. Pas moi, mais Dieu. C'est pas moi qui existe, c'est Dieu qui existe. Lorsque je donne, je me dépouille de tout pouvoir. Je me dépouille de toute reconnaissance que je pourrais m'attribuer à moi, parce que lorsque je donne, je laisse ce pouvoir à Dieu. Je donne, j'attribue tout à Dieu. Lorsque je donne, je rends gloire à Dieu. C'est à lui la gloire et pas à moi. Et lorsque je donne, je refuse l'individualisme et le matérialisme. Lorsque je donne, je refuse le déisme qui dit que chacun fait sa propre expérience de qui est Dieu. Lorsque je donne, je participe à l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque je donne, j'affirme solennellement que Dieu existe. Et lorsque je donne, je me donne. Donc voilà une partie de la solution. La solution à l'orgueil et à l'arrogance, être généreux et partager. Pas tout donner, pas se sacrifier au point de manquer du nécessaire nous-mêmes, pas donner sa maison à un sans-abri parce qu'il ne saurait peut-être pas forcément la gérer correctement. Mais donner à manger, héberger quelqu'un, trouver des solutions d'hébergement pour d'autres. Pas tout donner de manière inconsidérée, mais gérer correctement ses biens. Gérer correctement, ça veut dire aussi exercer la générosité pour ceux qui sont dans le besoin, d'une part, mais aussi donner à l'Église pour qu'elle-même puisse exercer cette générosité auprès d'autres. Pourquoi ? Parce que je fais partie de l'Église. En venant ici, je fais partie de l'Église. Je contribue à son bon fonctionnement. Donner aux missionnaires, donner pour l'œuvre de Dieu partout dans le monde, ça en fait partie. C'est ça la générosité, c'est ce que Dieu nous demande. Et puis la solution à mettre tout son espoir dans les richesses, c'est faire le bien. Comme dit Paul, être riche en bonnes œuvres, c'est-à-dire être généreux en bonnes actions, se préoccuper de faire de belles choses. Et ça permet de ne pas se focaliser sur moi, mais sur les autres. Faire le bien. Faire le bien, c'est un programme sans limite. Il n'y a pas de limite à faire le bien. Aucune. Galates 6, verset 9, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ça m'amène à vous dire une phrase très particulière. Les riches ont ceci de particulier, c'est que leur argent leur permet encore plus que les autres de faire le bien. Les riches ont ceci de particulier que leur argent leur permet encore plus que les autres de faire le bien. C'est comme si un vaste champ s'ouvrait devant eux en ce qui concerne les capacités financières de faire le bien. Alors d'accord, être généreux, faire de belles œuvres, mais qu'est-ce qu'il en est de notre attitude ? Comment est-ce qu'on doit se comporter ? Que faire maintenant ? Trois mots. Dépendance, engagement et décision. On le voit au verset 19. Lorsque nous sommes généreux pour l'œuvre de Dieu, nous le mettons en premier et nous affirmons notre dépendance à lui. La richesse future qui nous attend, c'est la vie éternelle. C'est notre objectif. La vie éternelle sera le fruit d'une vie qui place Dieu au centre de ses priorités, au centre de sa vie. Une vie où on pratique l'amour, un amour qui se manifeste dans la générosité et dans les bonnes œuvres. Et l'idée du trésor dont parle Paul, ce n'est pas un but vers lequel tendre, comme si on cherchait à mériter quelque chose après toute la générosité qu'on a eue, les bonnes œuvres qu'on a faites dans notre vie, d'avoir ce trésor. Non, le but ultime n'est pas une possession, mais Paul appelle ça saisir la vie éternelle, saisir la vraie vie. C'est un objectif. La vie, ici-bas, n'est pas la vraie vie. La vraie vie est la vie éternelle. Et c'est clair ici dans ce passage, comme c'est clair dans toute l'Écriture. Nous obtenons le salut par grâce, et non pas avec nos propres efforts, et non pas avec notre argent. Jésus a déjà tout fait, on l'a dit encore ce matin, Jésus est mort sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Le salut ne se gagne pas. Le salut ne se mérite pas. Il s'obtient en fléchissant les genoux devant celui qui a tout obtenu pour nous. Et le salut vaut bien plus que toutes les richesses qu'on peut accumuler sur cette terre. Notre vie si courte n'a rien de comparable avec la vie éternelle que Jésus-Christ nous offre. Alors maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Ce que Jésus a fait nous met devant deux choix. On doit s'arrêter ici parce qu'il n'y a que deux choix possibles. On est tous devant ces deux options. Soit s'engager, soit rester fidèle. Soit vous n'avez jamais fait le pas de mettre Dieu en priorité dans votre vie. Jamais vous ne lui avez confié votre vie entière. Jamais vous n'aviez imaginé quel trésor vous attendait, que ce Dieu extraordinaire met en réserve pour vous. Alors je vous encourage à le faire aujourd'hui. À le faire dès maintenant. Saisissez la vie éternelle. Confiez-lui votre vie. La deuxième option, c'est dans le cas où vous avez déjà fait ce pas. Vous avez déjà pris cette décision de suivre Jésus. C'était peut-être il y a quelques mois, quelques années ou plusieurs années. Mais ce matin, Dieu vous appelle à renouveler cet engagement. Dieu réclame votre fidélité. Dieu réclame de votre part un engagement à lui rester fidèle. Votre phrase devrait être de dire « Oui Seigneur, je veux continuer à te suivre. Je veux te rester fidèle. » Et ce matin, le Seigneur Jésus nous demande d'apposer une nouvelle fois notre signature au bas d'une lettre. Sur cette lettre, il y a marqué une seule phrase. « Je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. » Jean 3,16. Et je vous pose la question comme je la pose à moi-même. Est-ce que vous voulez signer cette lettre ? Et quand on regarde la fin de cette lettre, les derniers mots de l'apôtre, ces derniers mots sont encore pour Timothée, mais ils sont aussi pour nous. Comme si Dieu nous écrivait une lettre à nous personnellement. Verset 20. Cher Timothée, cher Jean-Samuel, cher Étienne, cher Jean-Marc, cher Yasmina, cher Claire, cher Marcel, cher Martine, cher Chantal, mettez votre prénom. Garde intact ce que je t'ai confié. Garde soigneusement ce que tu sais maintenant, ce que tu as appris. Évite les discours creux, les bavardages inutiles, les objections qui ne servent à rien, qui ressemblent à de la connaissance, qui ont l'apparence de la vérité. Regarde comme certains, comme Denis Diderot, se sont perdus là-dedans. Ils pensaient être dans le vrai, mais après s'être attachés à des fausses vérités, ils se sont perdus. Ils se sont égarés vers ce qui est le pire, renier leur foi, ne plus croire en moi. Après ne plus m'avoir mis en priorité, ils m'ont écarté de leur vie. Ils l'ont fait. Mais toi, reste fidèle. Engage-toi. Renouvelle ton engagement. Reste avec moi. Ne va pas te perdre ailleurs. Rappelle-toi que la grâce est sur toi, que je t'ai tout donné, que j'ai tout accompli. Je l'ai fait par grâce. Ne l'oublie pas. Que ma grâce soit sur toi, va en paix maintenant. Et c'est signé Jésus-Christ. Et je voudrais prier avec vous maintenant. Seigneur Jésus, tu nous mets parfois devant des murs avec des choix à faire, des choses qui nous semblent impossibles, une remise en question de ce que nous avons fait fidèlement jusqu'à présent. Seigneur, je te demande de nous aider à faire ce choix, soit de nous engager, soit de déclarer te rester fidèle. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que nous sommes sans force et nous sommes sans cesse attirés par d'autres choses que par toi. Sans cesse, nous nous appuyons, nous mettons notre foi dans des choses vaines qui disparaissent. Mais toi, Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Que tu nous as donné ton Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous fortifie et nous inspire. Alors loué sois-tu, Seigneur, parce que tout dépend de toi. Nous sommes dépendants de toi et nous le déclarons aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, nous réengager, te refaire confiance, apprécier la manière dont tu vas agir de manière parfaite dans nos vies. Nous voulons te remercier à l'avance. parce que tu vas le faire. Loué sois-tu, Seigneur. Tu es grand et glorieux, et nous proclamons aujourd'hui que nous croyons en toi. En ton nom, Seigneur Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen.